18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Chers amis, bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. Vous le savez, c'est toujours votre émission, votre magazine Les Informés de 18h à 19h30. Et nous sommes ensemble pour, évidemment, commenter, analyser et décrypter l'actualité. Alors ce soir, qu'est-ce que je vous ai préparé au menu? Eh bien, plusieurs sujets. D'abord, je commencerai par ouvrir l'antenne. On va recevoir ce soir, il était chez Vanessa ou encore chez notre ami Karim. Eh bien, le voici ce soir en direct, en plateau, dans nos studios de Beurre FM, dans Les Informés. Le père du jeune Yanis fauché par un véhicule. Donc, il est là ce soir avec nous. Il viendra donc revenir à la fois sur cette mort, la mort fauchée par une voiture, mais également aussi, il viendra avec les derniers éléments. On a quelques minutes de retard avec lui, donc on va le retrouver vers 18h15, 18h20. On s'en excuse d'entrée. Ensuite, après, tout à l'heure, c'est les débatteurs influenceurs qui seront avec nous en plateau aussi, qui commenteront l'actualité. Notamment, vous savez quoi, on reviendra sur l'affaire qui prend dans l'ampleur. Louis Boyard, c'est le député Cyril Hanouna. Ça prend de l'ampleur parce que, évidemment, c'est clash sur clash. Voilà. Plainte contre plainte, affaire contre affaire. Et puis, on surenchère. Et puis, chacun essaie, évidemment, de défendre à sa manière ce qui s'est déroulé. On reviendra sur cette séquence. Ensuite, autre sujet polémique. Vous savez, c'est le vivre ensemble en France. Eh bien, figurez-vous, le chanteur Daniel Guichard, il dit « Je me suis inscrit à un club de tir. Vaut mieux se préparer à se défendre. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bon, on va en commenter cette actualité. Effectivement, on en parlera. Est-ce que ça craint à ce point-là? Autre sujet aussi qui a retenu notre attention, vous savez, eh bien, c'est tout simplement l'affaire Katniss. Le retour du député est-il possible au sein de l'hémicycle? Et puis enfin, les présidents américains et chinois se sont vus, se sont parlé et se sont rencontrés, se sont dit des choses. C'était donc en plein G20. Eh bien, nous reviendrons pour apporter tout l'éclairage concernant cette rencontre au sommet avec le président américain et le président chinois. Voilà ce que je vous propose. Mais tout de suite, pour l'heure, vous le savez, nous allons ouvrir l'antenne, le rapport jeune population, population jeune et police. En attendant, évidemment, de retrouver en direct le père de Yanis. 01 53 48 3000, c'est parti. Et c'est maintenant toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Allez, je vais tout de suite ouvrir l'antenne, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000, Les Informés vous donnent la parole.
Pour celles et ceux qui veulent revenir sur le clash, Hanouna, l'affaire Hanouna donc, et le député Boyard, eh bien vous pouvez nous appeler tout de suite au 01 53 48 3000, je vous attends comme chaque soir notamment. Mais également aussi, vous savez, on veut parler de ces contrôles aux faciès, je vous l'ai dit, une fois par mois, nous reviendrons sur, avec justement, celui que vous connaissez, sa voix, vous la connaissez désormais en tout cas. Il s'appelle l'ancien commandant de la police, il est aujourd'hui aussi le porte-parole de l'Union nationale des polices indépendants. Et c'est Jean-Pierre Colombias. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Et comment
bonsoir
ça va
à tous les auditeurs.
Je vous ai dit, je vous avais proposé ça, oui. Vous ancien commandant de la police, mais aujourd'hui vous êtes le porte-parole de l'Union
des policiers nationaux indépendants.
Nationaux et des indépendants.
À tout son sens.
Eh bien, c'est parti, vous le savez, confronter les témoignages, notamment au 01 53 48 3000. Je vous l'avais proposé, d'ailleurs, je vous avais dit qu'une fois par mois, nous reviendrons sur le rapport jeune, rapport population, mais également aussi police, et ces contrôles aux faciès. Vous avez été nombreux il y a quelques semaines à vouloir évidemment en parler régulièrement, en parler souvent sur notre antenne. Donc venez interpeller le porte-parole de l'Union nationale des policiers donc indépendants. Il vous attend, Jean-Pierre Colombias, au 01 53 48 3000. Il est là aussi pour vous livrer des conseils, il est là aussi pour vous donner les manières dont il faut faire, s'il faut interpeller parfois le procureur, s'il faut porter plainte parfois, ou si une main courante suffit. Donc venez aborder tous les sujets que vous souhaitez, tous les sujets. La police vous écoute ce soir au 01 53 48 3000, vous l'interpellez Jean-Pierre Colombias, donc, et il se fera un plaisir de vous accompagner mais surtout de vous aiguiller, évidemment, avec tout le sens du professionnalisme qu'il a, vous le savez, puisque c'est un coutumier de notre antenne. Jean-Pierre Colombiès, je voudrais aujourd'hui, comment doit-on... D'abord, je voudrais vous, parce qu'on ne parle que de ça, concernant l'affaire Hanouna et le député Boyard, qu'est-ce qu'il risque, notre animateur Cyril Hanouna, quand il injure devant des millions de téléspectateurs, 2 millions de téléspectateurs, le député LFI, Louis Boyard?
Alors techniquement, il risquerait d'être poursuivi pour injure publique. Concrètement, il risque pas grand-chose. Vu le contexte et vu la façon dont les choses se sont déroulées, on va être clair, hein, ça débouchera très certainement sur du vent, sur pas grand-chose, chacun sachant que, bon, là, on a assisté à un spectacle, on a assisté à un show, à une émission de cirque, hein, en quelque sorte. Après, des insultes ont fusé entre quand même deux personnes qui se connaissent très, très bien.
Ben oui. Puisque l'un était... Il a collaboré avec Cyril,
exactement,
le député.
Monsieur Boyard a été chroniqueur chez TPMP. Donc, bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Moi, je pense que la montagne accouchera d'une souris et ce serait bien qu'on parle réellement d'autres choses et des sujets de préoccupation bien plus graves, bien plus importants. Vous avez évoqué le décès tragique de cet enfant. Je pense que si on met en balance les deux, il n'y a pas photo de mon point de vue.
Allez, tout de suite, nous allons accueillir Rachid. Bonsoir, Rachid.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue, mon cher Rachid. Vous nous appelez de quelle ville ?
Denain, dans le nord de la France.
Dans le nord de la France. Mais également, qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Rachid ?
Alors, je suis animateur territorial, je suis fonctionnaire.
Eh bien, bienvenue Rachid, nous vous écoutons. Vous interpellez donc le porte-parole de l'Union Nationale des Policiers Indépendants. Il vous écoute, je vous ai dit. Je vous attends au 01 53 48 3000. Partout en France, venez interpeller, échanger et peut-être justement venir nous livrer votre témoignage et puis parfois aussi demander conseil à l'ancien commandant de police. Il vous écoute.
Alors, on est bien sur le débat de Hanouna et le député, hein.
On est sur le débat à la fois d'Hanouna, le député, mais vous pouvez aussi, si vous, dans votre quotidien, vous avez besoin d'être accompagné, informé, eh bien le commandant de la police vous écoute aussi.
Bon, je vais d'abord revenir sur le débat Hanouna et le député. Bon, déjà, moi je trouve que M. Hanouna a été irresponsable.
Oui.
Ce qu'il a fait, c'est très très grave. Voilà, parce qu'il a une stature... Hein, je ne sais pas combien il représente d'auditeurs tous les jours à la télé.
2 millions, cher ami.
Il s'est permis d'insulter un élu de la République, voilà, ouvertement, dans le cadre de son travail. Dans le cadre de son travail, c'est une deuxième faute. Et monsieur se permet encore de refuser. Comment on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Moi, je pense qu'il aurait dû s'excuser. Il aurait dû s'excuser. Ses propos sont de l'ordre de...
Il s'est excusé, hein. Il a fait un tweet, hein. Il s'est excusé. Hein.
Oui. Des excuses sans être des excuses, hein. Voilà. Hier, ce qu'il a fait, je vais pas trop regarder parce que je vais plus le regarder. Hier, ce qu'il a fait, c'est pour essayer de noyer le poisson. Donc, c'est inadmissible. Moi, j'espère qu'il va être poursuivi en justice et qu'il va payer parce que ça, donc, ça veut dire que demain, moi, j'ai un député en face de moi. S'il n'est pas sanctionné, je vais faire la même chose.
Ouais. Bon.
Je fais la même chose. C'est la porte ouverte.
Jean-Pierre Colombiès vous répond. Oui. Attendez.
Attendez, je termine.
Allez-y alors.
J'espère qu'il va être boycotté par tous les politiques de quelque bord que ce soit. Il faut plus y aller. Voilà. Sinon, il nous donne un blanc-seing. On peut y aller.
Rachid, voilà. Jean-Pierre Colombiès, évidemment, souhaite vous interpeller et échanger avec vous.
Oui. Alors, bonsoir Rachid, pas l'interpeller, mais alimenter le débat plutôt.
Oui.
Le problème de ces animateurs, c'est que, vous l'avez dit vous-même, il y a pas mal de politiques qui se précipitent sur les bancs de son émission. Et quelque part, ça alimente le fait qu'aujourd'hui, certains médias deviennent un peu les censeurs et, je dirais, les baromètres d'une ambiance globale, d'une opinion publique globale, et ils se sentent tout puissants. Ça fait quelques années maintenant que certains médias, sont devenus le premier pouvoir. Vous savez qu'on a toujours dit qu'en...
Exactement.
En démocratie, il y avait le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, et il se trouve que le pouvoir de la presse, qui était en troisième et quatrième position, devient aujourd'hui le premier pouvoir, puisque c'est celui, par les médias, le pouvoir des médias qui influencent considérablement les opinions publiques et les modes de pensée. Donc certains se sentent tout permis, effectivement, parce que personne, soit ne se sent le courage de les contredire, de leur apporter la controverse, soit ont tout à y gagner. On voit se succéder sur les plateaux télé et certains plateaux radio des personnes qui ont été salariées par ces mêmes chaînes. Donc c'est très compliqué pour eux aujourd'hui de faire le procès d'un homme, Hanouna en l'occurrence, tout simplement parce qu'ils sont tous allés à la gamelle. Enfin beaucoup, en tout cas.
Beaucoup. Ouais. Merci Rachid pour votre intervention. Voilà. On l'aura compris. effectivement.
C'est grave. C'est, oui. C'est grave. C'est très grave. Moi, je vous le dis. Hein. Voilà.
On l'a saisi, effectivement. Merci, mon cher Rachid, d'être intervenu. 01 53 48 3000. Allez, je vais accueillir Samira. Bonsoir, Samira. Samira, bonsoir.
Alors, attendez, je vais juste enlever mon dos.
Absolument, parlez bien devant votre combiné parce qu'on n'entend absolument rien, mon cher Samira. Il faut bien parler devant son téléphone. Hein. Sans quitte ma libre. Ouais. Samira, vous êtes là. Éteignez votre radio parce que c'est désagréable. On a le retour à l'antenne. Alors, Samira, vous nous appelez d'où?
Alors, j'appelle le Colombe.
Colombe, c'est le 92. Vous faites quoi dans la vie, ma chère Samira?
Je travaille dans un établissement financier où je suis gestionnaire, en fait. Je valide les contrats de financement.
Eh bien, bienvenue, ma chère Samira, nous vous écoutons. Bienvenue. Merci. Y compris Jean-Pierre, vous écoute aussi, Jean-Pierre Colombiès.
Eh bien, en fait, c'est une question que j'aurais voulu vous poser. C'est un problème.
Il vous écoute.
Jean-Pierre, j'ai mon fils et un de ses copains qui sont partis dans un centre commercial à Argenteuil. En sortant du centre commercial, il était peut-être très tard, il était aux alentours d'une heure et demie du matin, en gros. Ils m'expliquaient qu'ils ont pris la sortie, une sortie où il n'y avait pas de flèche qui indiquait pour monter ou pour descendre. Donc en fait, ils sont montés à deux voitures, l'un à côté de l'autre, et ils sont arrêtés par des agents en fait, qui leur ont dit bah voilà, vous avez pris un sens interdit. Donc ils ont pas voulu contredire. Hein. Ils ont dit il était 1h30 du matin, on voulait pas se retrouver en garde à vue. Ils ont pris le permis de chacun d'entre eux. Alors à mon fils, ils l'ont enlevé 4 points en disant qu'il avait pris un sens interdit, et à son camarade, pareil, 4 points, mais en même temps, ils lui ont indiqué vitesse excessive. Donc ils ont pas voulu en fait rentrer pour limiter, parce que moi je leur ai dit, vous aurez dû contester. Ils ont dit oui, on n'a pas voulu, on se serait retrouvé au poste, c'est pas la peine, deux arabes, grands.
Et quelle est votre question, ma chère Samira?
Ma question, c'était de savoir, est-ce qu'il fallait contester et puis voilà, aller en justice et puis prouver qui a tort ou qui a raison.
C'est le problème.
Ou ben voilà, la police, ben ils vont plutôt écouter ce que les agents vont dire par rapport à des jeunes qui vont.
Eh bien, il vous répond. Jean-Pierre Colombiès, oui. Monsieur le porte-parole.
Bonsoir, oui.
Samira.
Bonsoir Samira. J'aimerais juste quand même préalablement préciser que je ne suis pas le représentant d'un syndicat et encore moins le représentant ni le porte-parole de la préfecture de police ou du ministère de l'Intérieur. C'est une petite précision que je compte apporter. Quand on doit contester, alors je pense qu'ils ont bien fait de ne pas rentrer dans une polémique parce qu'effectivement ça aurait pu dégénérer. Et là pour le coup ils auraient pu être embarqués pour outrage. Enfin on ne sait trop quand. On ne sait trop jamais comment peut se dérouler, sur quoi peut déboucher un contrôle. Maintenant, on va être clair, hein, il y a une contestation possible, vous la faites. Déjà, vous pouvez la faire en demandant une audience à leur chef de service, tout simplement.
Oui.
Ça peut se faire, ça se fait régulièrement. Et si vous n'entendez pas d'oreille, je dirais, à l'écoute, vous pouvez faire une main courante, c'est ce qu'on appelle la passerelle dématérialisée vers l'IGPN, en contestant les faits et en relatant ce que vous venez de nous dire, tout simplement, le plus simplement du monde, en relatant la manière dont le contrôle s'est fait. S'il n'y a pas eu d'incident, ben c'est très bien, ça ne fera qu'alimenter votre bonne foi. Mais en tout cas, les voies de recours existent, et si vraiment ça ne débouche sur rien, il y a encore la saisine du procureur de la République. Public, par lettre recommandée, par exemple.
C'est très clair. Hein. Samira, ça vous semble bien, tout ça?
Oui, très bien. Très bien.
Eh bien, écoutez, vous avez bien fait d'appeler, ma chère Samira.
Tout à fait. Et concernant le débat d'Anouna, si je peux me permettre, Cyril Hanouna, effectivement, pour moi, c'est pas une chaîne politique. Il fait plutôt du buzz. Il est là, voilà, pour alimenter l'audience.
Mais ça l'est devenu.
C'est une personne qui, on lui a donné trop de... On lui a donné en fait trop d'importance et aujourd'hui il se retrouve dans cette situation parce que voilà, il prend trop de zèle. Et un élu de la République, quel que soit l'élu, même si auparavant il n'était pas, même si hier il a commencé à indiquer tous les montants qu'il a perçus en passant à TPMP, c'est quand même pas une raison.
Eh bien merci, vous avez...
Voilà. Une personne de l'autorité
merci.
De l'État.
Merci à vous, merci ma chère Samira merci d'être intervenue. 01 53 48 3000, nous vous attendons, le standard vous attend, mais y compris, vous savez, Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui le porte-parole de l'Union nationale des policiers indépendants. 01 53 48 3000. Ne quittez pas, puisqu'il y a Farid tout de suite après que je récupère en direct.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
18h22, chers amis auditeurs, 01 53 48 3000, venez interpeller. Donc, évidemment, on parle évidemment de conseils, de témoignages, notamment comme Samira, comme tous les autres, 01 53 48 3000. Le standard est ouvert. Venez interpeller Jean-Pierre Colombiès, l'ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui le porte-parole des policiers de l'Union nationale des policiers, donc indépendants. Tiens, j'ai Farid, c'est ça, Farid, je crois, il me semble.
Oui.
Farid, vous nous appelez d'où, Farid?
De Asnières.
Asnières, nous vous écoutons. Bienvenue, mon cher Farid.
Oui, une fois, j'ai été contrôlé à la sortie du travail à Neuilly, à Pont-de-Neuilly, oui. Au métro.
Oui.
Et bon, j'ai vu que c'est parce qu'il a vu que j'étais un arabe. Hein. Il m'a contrôlé. Et quand j'ai présenté ma carte d'identité, je leur ai dit, mais vous contrôlez les Français qui sont en situation, en bonne situation. Pourquoi vous n'allez pas à Barbès contrôler les Arabes qui n'ont pas les papiers? Il me dit, on ne peut pas être partout. Alors j'ai une espèce de connard. Ben.
Ah. Ouh là là.
Jean-Pierre Colombiès. Merci Farid. Jean-Pierre Colombiès. Qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, on va allumer votre micro. Oui.
Oui, bonsoir Farid. Alors, effectivement, le traité de connard, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'entamer le dialogue. Vous avez été contrôlé à Neuilly, oui, et il n'y a pas que des policiers à Neuilly, effectivement. Il y en a partout en Paris, en Ile-de-France, en petite couronne, grande couronne, et partout. Alors bon, je vais peut-être mettre à part ce contrôle en particulier. Maintenant, on va être clair. Hein. Si effectivement il y a des contrôles ciblés sur des personnes qui ont des profils nord-africains ou africains, ben c'est tout simplement parce qu'il y a des instructions données par le gouvernement et relayées par les autorités préfectorales pour faire de la lutte anti-immigration irrégulière, tout simplement. Et comme jusqu'à preuve du contraire, la France n'est pas touchée par l'immigration danoise ou suédoise, on cible les contrôles d'identité aux personnes qui ont un profil, on va dire, nord-africain et africain, globalement. Je peux vous dire qu'il existe effectivement des tableaux statistiques dans toutes les...
J'aime bien avec Jean-Pierre Colombiès, c'est qu'il met les pieds dans le plat, lui. Et s'il ne tombe pas autour du pot.
On pose une question claire, je réponds clairement.
Tout simplement. Vous continuez à interpeller donc le porte-parole de l'Union nationale des policiers indépendants, Jean-Pierre Colombiès. Il est 18h24 et nous recevons, vous savez, le père de Yanis, le jeune Yanis, mort fauché par une voiture. Son père aujourd'hui crie, à la fois il fait part de son incompréhension, mais également aussi un véritable cri d'alarme. Hakim, il est en plateau avec nous en studio. Bonjour Hakim. Comment allez-vous d'abord? Dans quel état d'esprit? Déjà, merci d'être avec nous ici, dans Les Informés.
C'est moi qui vous remercie de me recevoir. Eh bien,
dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui?
Ben c'est relatif.
Oui.
Honnêtement, si on
comment,
parle,
avec,
si
avec on parle un peu de fond, recul, comment vous vivez tout cela
aujourd'hui? Eh bien, très mal. Je pense que n'importe qui, dans mon cas, dans ma situation, ben, on peut pas dire autre chose que le vivre très mal. Déjà par ce que l'on a subi, donc la perte de notre enfant, dans des conditions catastrophiques. Où la personne, quand elle...
On peut rappeler les conditions, oui. Fauché par une voiture.
Oui.
Rappelons-le.
Donc,
rappelons-le.
Aussi, ça fait partie du malaise que je vis, c'est de devoir tout le temps répéter, mais en même temps, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que je viens d'une ville où c'est qu'on a tendance à cacher.
Je vous pose la question pour celles et ceux qui n'ont pas suivi.
Je suis complètement pour. Donc, je disais que je viens d'une ville où ils ont tendance à cacher quand ça implique des policiers ou la famille de policiers. Ouais. Donc, je viens de Perpignan. Pour le coup, mon fils a été tué par... alors, je ne vais peut-être pas dire le prénom, mais par une personne qui a fauché mon enfant, donc à deux pas de sa mère, à deux doigts près, j'ai envie de dire. C'était toute la famille qui était tuée. Donc, il ne s'est pas arrêté sur le passage piéton. Elle était au double de la vitesse autorisée, dans une zone particulièrement fréquentée par les familles, donc un lac, en l'occurrence, à Villeneuve-de-la-Rao.
Il avait quel âge, le jeune Yanis?
8 ans.
8 ans.
8 ans, il était bien engagé sur le passage piéton, avec sa mère, sa sœur, Sophia, qui avait son anniversaire à 2 jours. Eh bien, c'est une des rares fois où j'ai vu un anniversaire aussi, quand je vois ma fille, aussi douloureux. Donc voilà, il y a les conséquences aussi de la mort de Yanis qui aujourd'hui sont irréparables. Alors, ce qui a occasionné aussi en même temps cette espèce de dépression au milieu de ma famille, j'en parlais jamais, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est une exclue. Il y a eu le chaos chez moi depuis la mort de mon fils. Donc, ce qui fait que quand vous me demandez comment je me sens, je vous dis c'est vraiment relatif.
Ouais. Votre épouse, la mère de Yanis, comment elle se porte ?
Très, très mal.
Très mal.
Il n'y a pas si longtemps.
Vous discutez avec elle, vous échangez. Sur quel sujet vous échangez ? Vous arrivez à l'aborder ?
Eh bien, on ne peut pas. Aujourd'hui, si vous voulez, elle accepte ce combat. Il y a une injustice qui est flagrante. Si vous me permettez, je reviens en deux mots sur ce qui s'est passé. Donc, le 5 février 2022, mon épouse, accompagnée de Yanis, Sofia et un bébé, c'est très grave. Il y avait aussi un bébé qui était dans les bras de ma femme, traversait du lac en direction de ce qu'on appelle le petit parking où était stationné le véhicule de mon épouse. Donc, ils sont amenés à passer sur le passage piéton. Un véhicule qui vient de Perpignan en direction de Villeneuve-de-la-Raux s'arrête. Le premier véhicule donc qui vient de gauche vers la droite. Ma femme la remercie et puis s'engage sur le passage piéton. Et bien Yanis les précède de deux petits pas d'enfant. Il a 8 ans. Donc il est bien engagé aussi. Ils ont pratiquement traversé le passage piéton. Et puis un véhicule qui vient de droite vers la gauche, donc de Villeneuve-de-la-Raux en direction de Perpignan, qui lui ne s'arrête pas, qui est au double de la vitesse, et qui tape Yanis. Mais le choc est d'une violence telle que Yanis est propulsé en l'air. C'est un Citroën Picasso qui le percute, tape le pare-brise, et il est propulsé 6 mètres en avant. Donc elle n'a pas freiné au passage du piéton, elle a voulu forcer le passage, c'est la conclusion du détective. Et quand elle le tape, eh bien elle a encore le temps de freiner. Puisque Yanis est par terre vivant, blessé, mais vivant. Puis elle décide de s'enfuir. Donc elle accélère. Elle roule sur Yanis. Elle l'écrase avec la roue avant. Elle le traîne sous le châssis. Donc entre le châssis et le sol, il y a 16 cm. Sur plus de 20 mètres, donc 22 mètres.
Qui vous raconte ça à ce moment-là ? Vous n'étiez pas présent, c'est votre épouse qui vous raconte.
Ah mais là, je vous donne tout ce qui est sur l'enquête.
Le rapport.
C'est sur le rapport, sur les expertises, tout est mesuré, tout est bien clair. Donc, elle traîne sur plus de 20 mètres, sur 22 mètres sous le châssis. Et puis, elle lui roule ensuite avec la roue arrière, et finalement, elle ne porte pas d'assistance et s'enfuit. Eh bien, elle s'enfuit. 600 mètres plus loin, elle s'arrêtera dans une espèce de petit chemin et elle téléphonera à la gendarmerie. Quand elle appelle la gendarmerie, elle leur déclare qu'elle vient de taper un petit garçon. J'ai touché un petit garçon. La gendarmerie, j'ai le PV de gendarme, puisque c'est enregistré et mis ensuite sur le procès verbal. Donc, elle téléphone à peu près entre 3 et 4 minutes après le drame. Et elle leur déclare qu'elle a touché un petit garçon. La réaction du gendarme, c'est « Est-ce que vous avez prévenu les secours ?» La réponse de cette personne, c'est « Non, je vais appeler mon fils ». Donc, elle n'appelle pas les secours. C'est très important de le savoir. Ça remet en cause le fait qu'on ne retienne pas le délit de fuite. Donc, ce qui se passe dans un premier temps, elle téléphone à son fils. Juste après avoir coupé la communication avec la gendarmerie, elle appelle son fils qui lui-même est gendarme. Donc, son fils s'empresse de venir sur les lieux. Et puis, arrive la gendarmerie de Cabestany. Ça aussi, c'est mis sur PV. À savoir que tout ce que je vais vous dire, c'est écrit noir sur blanc. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Donc, les gendarmes de Cabestany, quand ils arrivent sur les lieux, ils voient cette dame et puis un monsieur qui la prend en charge et qui leur déclare qu'il est lui-même gendarme et que c'est son fils. Eh bien, là commence une deuxième version. Il a sûrement briefé sa mère. Pour ma part, je suis convaincu. J'ai envie de dire que c'est presque normal. Elle vient de tuer un petit garçon. Je pense qu'il n'a pas trop envie de voir sa mère partir en prison. Eh bien, il commence à la briefer. Donc, ils partent en gendarmerie. Et là, on a une deuxième version. Mais qui s'approche de la première. Elle ne parle plus d'un petit garçon qu'elle aurait touché.
Elle parle de
quelqu'un de petite taille qui serait venu de gauche vers la droite, alors qu'il avait pratiquement traversé. Le choc est plein face. On a les photos. Et puis, elle dit même, quand elle téléphone à la gendarmerie, elle dit « J'ai pas eu le temps de freiner, qu'il avait déjà tapé le pare-brise. » On ne peut pas être plus précis. C'est textuellement ce qu'elle dit. Donc, quand elle a entendu en gendarmerie, dans sa deuxième version, elle dit qu'elle a touché quelqu'un de petite taille qui venait de gauche vers la droite. Et ce qui est surprenant, c'est qu'elle n'est pas mise en garde à vue de suite. Elle est relâchée, avec son permis en poche, rentre chez elle. Elle ne sera réentendue qu'au mois d'avril. On est en février, on est le 5 février. Pour ma part, je suis à l'hôpital avec mon fils, en train d'attendre. Il y avait un espoir infime, un tout petit espoir qu'on puisse le sauver. Alors, je vais vous dire ce qu'il avait ou ce qu'il n'avait plus, Yanis. Mmh. Donc, plus de poumons. Les deux poumons ont implosé. Les côtes. Mmh. Toutes les côtes cassées. Les clavicules cassées. Les deux os des cuisses, les deux os du col du fémur, complètement sectionnés. Il est scalpé. Donc, à tel point que dire qu'il y a une petite chance, d'après les docteurs, mais ils arrivent à le stabiliser.
Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les médecins, les chefs médecins? Ils vous ont dit quoi? Vous avez échangé avec eux? Évidemment, quand vous nous décrivez la situation au moment où vous le découvrez à l'hôpital, je comprends l'émotion, je comprends cette rage qui vous gagne. C'est normal et c'est tout à fait légitime. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent?
À l'hôpital, pardon. Oui. Dans un premier temps, on m'appelle pour me parler d'un accident. Mmh. Donc, j'arrive 10 minutes après et puis je vois ma femme en panique. Il y a foule, des camions de pompiers, des gendarmes. Puis je sais pas, l'instinct, le hasard. Je vois mes petites qui sont tenues par une dame. Et puis ce camion de pompiers, je rentre dedans et je vois Yanis dans une espèce de bâche de première intervention, les bâches de secours qu'ils ont, les pompiers. Il est là. Je vais vers Yanis. Je dis, Yanis, ça va, c'est papa. Il me répond avec une toute petite voix, ça va. Juste un peu avant, quand on me prévient qu'il y a un accident, on me dit, écoutez, il est avec sa maman. Et je lui dis, eh ben, passez-moi la maman, elle ne peut pas, elle est en crise, savoir que 22 mètres après.
Le mot ça va, c'est le dernier échange que vous avez eu avec votre fils, Yanis?
Il y en aura un autre plus tard, mais il est gravé sur sa tombe, c'est-à-dire qu'il a eu 2 arrêts cardiaques. Donc quand je sors du camion de pompiers, je vois bien qu'ils sont dans une situation telle, on me dit que c'est gravissime. Donc dès que je sors du camion du pompier, vous avez le docteur de la SAMU qui dit « Yanis, reste avec nous, reste avec nous ». J'ai bien compris qu'il venait de faire un arrêt cardiaque. Mmh. Il se réveillera, ils referont partir le cœur à peu près une 40 minutes plus tard. Et puis là, il va leur déclarer « J'aime Allah, j'aime Dieu », alors qu'il est pratiquement mort, par 3 fois. C'est les pompiers qui me le diront plus tard, ils ont l'enregistrement. Je pensais que ces derniers mots, c'était « Eh bien, ça va ». Non, finalement, plus tard, on me l'a fait entendre. Depuis, on lui a fait une pancarte. C'est terrible.
C'est terrible, effectivement.
À cet âge-là, on sent venir la mort au point de déclarer, de faire une telle déclaration. Mais il avait toute sa tête, Yanis. Mmh. Donc, quand le tampon et quand elle s'enfuit, c'est emporté assistance. Eh bien, la conductrice, pour ma part, la meurtrière.
Marie-Christine, 57 ans.
Marie-Christine, 57 ans. Marie-Christine B. Eh bien, laisse mon fils à l'agonie. Sa mère, sur plus de 22 mètres, court derrière le véhicule avec le bébé sur le bras. Elle lui supplie de freiner. Eh bien, elle n'en tient pas compte. Elle dit que vous voyez des jambes bouger par le rétroviseur. Yanis est sous le châssis. Tous ses os se cassent les uns après les autres. Il hurle. Il hurle. J'ai les témoignages. Les gens qui étaient sur le parking ont entendu les cris de Yanis et de la mère. Mmh. Mais elle avait quelques centimètres sous le châssis et elle ne freine pas. Donc c'est d'autant plus horrible qu'elle ressort une heure après la gendarmerie.
On revient tout de suite, je vais juste marquer une pause. On se retrouve, le père de jeune Yanis, mort fauché. C'est terrible, effectivement, véritable vraie injustice, c'est les mots qualifiés par vous-même, Hakim, le père de Yanis. On revient sur cet événement. On marque une pause, on se retrouve tout de suite après, y compris vous, si vous souhaitez l'interpeller au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h, 19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Les informés, Hakim, le père du jeune Yanis, fauché par une voiture le 5 février dernier 2022. Et vous avez suivi en direct ici même, vous savez, le témoignage d'Hakim, son père. Et puis, séquence par séquence qui s'est déroulée. Marie-Christine, 57 ans, aujourd'hui, elle est jugée pour homicide involontaire commis avec au moins 2 circonstances aggravantes et non à l'assistance à personne en danger. Vous avez écouté, vous, l'ancien commandant de la police, vous avez eu affaire à traiter des affaires comme ça. C'est pour ça aussi que vous êtes là aussi en direct, Jean-Pierre Colombiès. Quand vous écoutez Hakim, le père, évidemment, de jeune Yanis, comment d'abord vous réagissez? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Elle est donc jugé pour homicide involontaire commis et sur deux circonstances aggravantes et non assistant à personne en danger. Vous, le porte-parole, notamment aussi de cette association de la police des indépendants, de l'Union nationale des polices indépendants. Mais Jean-Pierre Colombiès.
D'abord, moi, je tiens à vous présenter mes condoléances, même si c'est des mois après, et si c'est pas mes condoléances, c'est toute ma compassion, parce que ce que vous vivez est terrible. Il y a qu'un parent, je suis père aussi, et je pense aussi à votre épouse. Voilà, c'est le drame absolu. Total. Ouais. Après, une fois qu'on a dit ça, et si on veut rester à peu près technique dans ce qu'on vient d'entendre, je pense qu'il faut, après, une fois qu'on s'est un petit peu, je parle pour moi, un peu détaché de l'émotion, parler concrètement de ce qui c'est sans faire outrage à la peine du papa. Moi, il y a une chose qui me gêne profondément dans ce que j'ai entendu, c'est le fait que cette dame n'ait pas du tout été mise en garde à vue dès le départ. Ce qui, pour moi, est une incompréhension absolue. J'ai eu, effectivement, comme vous l'avez dit, Adil, à traiter une affaire quasi similaire, puisque c'était un camion qui avait écrasé une petite fille légèrement plus âgée, mais guère plus que votre fils. Et le chauffeur du camion a été mis en garde à vue, mais sans qu'il y ait de volonté d'être plus torquemada que les autres. C'était simplement une question de procédure, tout simplement. On met en garde à vue la personne qui était au volant du véhicule, tout simplement pour procéder d'abord. En lui notifiant ses droits.
Alors, pour quelle raison il ne s'est pas retrouvé en garde à vue?
Ça, c'est au gendarme qu'il faudra poser.
C'est parce que c'est son fils qui est intervenu?
Eh bien, écoutez, j'espère que non. Parce que là, pour le coup, ce serait une affaire de collusion, ce serait une affaire d'entente. On n'est pas simplement dans le cadre d'un accident banal. C'est un accident gravissime avec délit de fuite qui a occasionné la mort d'un enfant. On arrête de discuter. Il n'y a pas de discussion à avoir. Et si le fils a réellement intervenu, ce que je n'espère pas, eh bien, il faudra qu'il en réponde. Tout simplement.
Oui, complètement.
Il y a beaucoup de zones d'ombre.
Il y a un conflit d'intérêts. Pour ma part, je vous dis vraiment ce qui s'est passé. Donc, dans la mesure où c'est que nous, quand on est à l'hôpital, je vous ai dit qu'il y avait un espoir que le petit s'en sorte. À 4 heures du matin, plus d'espoir. Il est mort. Donc, il nous déclare la fin de vie. À 7 heures, on nous appelle pour porter plainte. Quand on arrive en gendarmerie, eh bien, l'enquêteur, la première des choses qu'il nous apprend, avec les yeux écarquillés, à ce moment-là, on est encore, nous, sous le choc de la mort du petit, et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Donc, il me dit, eh bien, écoutez, le délit de fuite a été requalifié par le magistrat. Je lui dis, ah bon? Il y a un délit de fuite? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, écoutez, le délit, je ne sais pas, mais alors, entre la nuit du samedi au petit matin du dimanche, donc le magistrat qui décide de requalifier le délit de fuite. Plus tard, on essaiera de m'expliquer.
Vous dites Jean-Pierre Colombiès.
Vous dites qu'il requalifie, c'est-à-dire que c'était quoi la première qualification?
La première qualification, c'était qu'il y a. Mais de toute façon, il y a eu un délit de fuite. C'est par les plaques d'immatriculation.
Oui, bien sûr, non, mais ça, c'est
qu'on
clair,
peut le savoir. Donc, apparemment, il requalifie. Et puis, en quoi il dit que le délit de fuite n'est pas retenu dans la mesure où elle aura appelé les secours. Je vous ai dit depuis le début qu'elle a juste appelé la gendarmerie et son fils. Pour le coup, c'est une dame qui a appelé les secours. Elle a laissé par terre à l'agonie, mais elle a à aucun moment. Donc, la DAFET. Oui, dans un chemin bien caché. Vous savez ce que c'est que la DAFET?
Là, pardon?
La DAFET, c'est quand on relève les numéros de téléphone.
Les fadettes, vous voulez dire?
Les fadettes, je le dis à la façon catalane, désolé. Ouais. Bon, et puis voilà, donc aucun relevé de téléphone de la part de Marie-Christine en direction des secours pour justement aller pour porter secours à Yanis. Donc là, la requalification plus tard, elle reprendra son sens, mais beaucoup plus tard. Donc l'enquête a été faite sans délit de fuite. Moi, j'ai toute l'enquête de gendarmerie, on n'a pas de délit de fuite. Ils retiennent en échange le non-assistance, le procureur, lui, ne veut pas accabler Marie-Christine et enlève le non-assistance. Donc, si vous voulez, on est dans une situation, vous devez connaître peut-être, c'est que depuis le début, ils ont instruit un dossier, pas instruit puisqu'il n'y a pas de juge d'instruction, pardon. Ils ont fait une enquête à décharge pour Marie-Christine, depuis le départ. Elle est en zone 30, elle est au double de la vitesse. Expertisée par expert, donc elle est à 60 km/h, et là, on a tous les panneaux. J'ai sur Justice et Vérité pour Yanis, tout est filmé. Ouais. Tous les panneaux vous 30 dites... ont été remis en cause par les enquêteurs.
Allez-y, Jean-Pierre.
Vous avez dit que tout à l'heure, il y avait une expertise. D'accord, qui a fait cette expertise?
Eh bien, un expert qui a été diligenté par les gendarmes.
Par le parquet.
Non, par les gendarmes, ou le parquet. Non,
c'est plutôt le parquet qui désigne.
Mais la question où je veux en venir, elle est importante. C'est est-ce qu'il y a eu des traces de freinage relevées?
Non.
Aucune trace de freinage. Donc elle n'a pas freiné.
Non, on le sait. Ni avant, ni après.
Non, mais il faut le prouver.
Ah non, mais aucune trace de freinage. Là-dessus, on, je veux dire, ça y est dans l'enquête. Donc la seule façon de déterminer la vitesse, ça a été et par le corps, et là j'ai donné mon accord donc, pour qu'il puisse déterminer. Il y a le choc, et il y a aussi le choc dans le véhicule. Donc on est au double de la vitesse réglementaire sur cette zone-là. Eh bien, ils ont trouvé le moyen aussi, là aussi, de remettre en cause les panneaux, en disant qu'ils n'avaient pas retrouvé l'arrêté préfectoral, et donc on pouvait estimer que juste sur cette partie-là, à savoir qu'il y a quatre passages piétons, et comme par hasard, c'est là où on tue Yanis, que c'est
remis en cause. C'est quoi ce panneau ?
On a tous les panneaux 30. Mmh. Et donc, c'est signalisation avec cédé le passage.
C'est possible, ça, Jean-Pierre, de remettre en cause les panneaux ?
Ils ont juste dit qu'ils n'avaient pas retrouvé l'arrêté, le tampon départemental.
Ils disent qu'il n'y a pas l'arrêté. Ouais. Enfin, là, vraiment, c'est
vraiment
à dire, chercher des détails.
Voilà, au fond d'un tiroir.
Voilà, le diable est dans les détails, comme on dit, malheureusement.
Donc là, on a...
C'était alors, pour aujourd'hui, vous réclamez quoi aujourd'hui ? Vous réclamez, vous avez fait une déclaration, vous dites une vraie justice.
Complètement.
Ça veut dire quoi ?
C'est pour répondre à votre question. Le conflit d'intérêts, il est bien visible. On enlève les délits de fuite, on enlève le non-assistance, on remet en cause les panneaux. C'est pas fini. À un moment donné, on remet même en cause mon épouse en disant qu'il aurait échappé à sa vigilance. Mais je sais pas, mais sauf on met pas une laisse. On met pas une. Mais ça, c'était aux détectives, aux enquêteurs de le mettre en avant. C'est pas en créant. Donc voilà, c'est pas à nous de nous défendre. C'est pas nous qui avons tué notre fils. Elle s'appelle Marie-Christine, l'assassin. C'est elle qui l'a tamponné pour s'enfuir, qui l'écrase. D'accord pour le non, pour le comment, pour la mort sans intention de la donner jusqu'au passage piéton. On peut dire que elle aurait dit qu'elle était pressée, peut-être.
Pour
mais le fait
volontaire.
De l'écraser quand il est au sol et de s'enfuir et ne pas porter assistance et partir en délit de fuite, je pense que les circonstances aggravantes sont là. Il y a au moins la volonté de fuir, ce qui a causé la mort de Yanis. Et puis les enquêteurs arrêtent l'enquête au passage piéton. Il l'épargne. Après le passage piéton, il n'y a pas de question posée dans le sens où est-ce que vous avez senti quand vous avez...
Jean-Pierre Colombès. Jean-Pierre Colombès.
Au moment où elle s'en va après le choc, le délit de fuite, il est constitué.
Non, mais elle l'écrase pour s'enfuir. C'est ce qui le tue.
Malheureusement, j'ai bien compris. J'ai bien
entendu
ce que vous avez dit et c'est très très fort. Bon, une fois que tout ça s'est déroulé, qu'elle est partie, 600 mètres, 500 mètres, 300 mètres plus loin, on est dans le cadre bien déterminé, bien calé d'un délit de fuite. Pour moi, il n'y a pas débat. Par contre, la question que je peux vous poser, est-ce que vous avez pensé à vous porter partie civile ?
Je suis partie civile.
Vous êtes partie civile.
Oui.
Donc il y aura la nomination d'un magistrat instructeur, et là vous allez vous retrouver face à un juge indépendant cette fois.
Tout oui, simplement. Mais le problème, si vous voulez, c'est que le procureur nous représente. Vous savez comment ça passe. Si, il représente la victime. C'est lui qui requiert.
Au début de l'enquête.
On est passé en audience.
Non, je sais, j'ai compris. Mais ça, c'est l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrant délit, si vous voulez, qui se passe effectivement toujours sous l'autorité
du procureur
de la République. Qui délègue un substitut. Okay, mais une fois qu'on a dit ça et qu'on est sorti du processus classique, normal, de la dépendance du magistrat, du procureur de la République, dès lors que vous avez constitué une partie civile et que la nomination d'un juge d'instruction est faite, c'est terminé. Le seul magistrat qui aura raison en premier et en dernier ressort, ce sera le juge d'instruction.
Mais là vous parlez du cheminement normal, sauf que dans mon cas, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous voyez ?
Qu'est-ce qui s'est passé, alors ?
Là, on n'y est plus du tout. Je vous dis que c'est un système mafieux. Et ça n'engage que moi. Mais en même temps, quand je vais finir d'expliquer, vous allez tout comprendre. Donc l'enquête a été faite par la gendarmerie. Il manque énormément de choses dans l'enquête, celle que je vous dis, donc la finalité, celle qui tue Yanis, qui est très importante, et puis les caméras, on ne peut pas bien me voir, les témoins, oui, mais alors les témoins sont orientés, les témoins qui, eux, parlent des faits. Marie-Christine qui a écrasé un enfant sur le passage piéton, qui l'a traîné, qui ne s'est pas arrêté. Ça, c'est les faits. Ce qui est suggéré par l'enquêteur, c'est oui, mais il y avait du soleil. Alors, il faisait beau, il y avait du soleil, mais bon, mais c'est quoi ça ? Donc c'est suggéré, question posée, réponse donnée. On a fabriqué, si vous voulez, du point de vue de l'enquêteur, un coupable. C'est très bien. Plus tard, on dira même que Yanis, c'était un oiseau, un volatile. Vous voyez jusqu'où ils ont été. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est ce que vous me dites, monsieur, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de juge d'instruction. Ça n'a pas été fait. D'autre part, elle n'a pas été instruite, cette enquête, alors qu'il y a un mort. Je reviens. Il y a eu l'enquête de gendarmerie, bouclé. On n'a pas eu, nous, le droit de regard, partie civile, on n'a pas pu voir les documents. Il y a eu une confrontation, il y a eu le jour de l'enterrement, vendredi, la reconstitution faite par les gendarmes, ils bouclent, ils barrent les routes, ils font ça entre eux, pendant qu'on enterre mon fils, le vendredi. Ma femme est le témoin. Numéro 1, il est quand même sur place.
Il n'était pas convoqué ?
Pas convoqué, pas convié. Donc là aussi, je vous laisse rajouter ça au panneau,
Jean-Pierre.
Au délit de fuite.
Juste ces éléments que vient de citer, donc Hakim, juste, le père du Yanis,
est-ce que ça ressemble,
ça vous frappe,
à un système?
Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est une procédure complètement classique?
Non, on va être clair, non. Si ça ressemble à un système mafieux, je ne vais pas dire ça, je n'en sais rien.
Mais,
non, mais en tout cas, ça porte question. Non, mais ça porte question. Mais je veux dire par là, c'est que vous avez dit une chose qui est là encore, qui rentre dans le cadre de la procédure. Vous m'avez dit, oui, tout a été fait sous l'autorité du procureur de la République et jamais sous l'autorité d'un juge d'instruction. C'est bien ce que vous avez dit, mais c'est logique dès lors que le procureur ne saisit pas, ne nomme pas, ne sollicite pas l'ouverture d'une information. Donc à partir du moment où le procureur ne sollicite pas d'instruction, ça, c'est après à vous de le faire. Vous m'avez dit que vous étiez porté partie civile. Donc ça, c'est très bien, puisque ça va donner un autre cours à la procédure. D'accord ? Ça va donner un autre chapitre. Donc quand vous me dites que c'était sous l'autorité du parquet, bien sûr, j'ai connu des affaires comme ça aussi, où le parquet, je ne citerai pas le parquet parce que c'est une autre affaire, mais tout aussi sordide, où le parquet n'a pas volontairement ouvert d'informations.
C'est mon cas aussi. Hein.
Mais j'entends, j'ai bien compris. Mais c'est pour ça que c'est normal qu'il n'y ait pas eu de juge d'instruction. C'est tout simplement parce que le procureur de la République local n'a pas voulu nommer, ou n'a pas, j'ai estimé, parce qu'il a toute autorité pour le faire, l'ouverture d'une information. Mais à partir du moment où vous vous constituez partie civile, vous allez donner une autre impulsion à l'enquête. Clairement, quant à la reconstitution, bien évidemment, le fait que les témoins, et le témoin principal, c'est votre épouse, ne soit pas là, c'est complètement aberrant.
Hakim ?
Donc, si, voilà. Alors, je vais revenir encore une fois là-dessus. C'est que le procureur estime que son dossier est complet. Nous, avec quand même 5 avocats, donc 3 de Paris, un qui était sous pression à Perpignan, on a arrêté avec lui, plus 2 de Bordeaux. Et chacun dans son cabinet, ils font la même conclusion, ils font un complément d'enquête. Cette enquête en un mois et demi n'est pas possible.
Vous allez nous dire où vous en êtes précisément aujourd'hui, hein, parce que
évidemment, on veut savoir.
On va juste marquer une pause. On se retrouve tout de suite après. Vous aussi, si vous souhaitez intervenir, 01 53 48 3000, je donnerai la parole aussi aux débatteurs influenceurs avec Philippe Nadjibouriaki, mais également aussi Amine Sahar, parce qu'il y a eu aussi, vous avez lancé une pétition sur change.org pour interpeller l'opinion publique, mais également des élus, des acteurs locaux vous ont soutenu et il y a eu quelques manifestations et je sais que vous voulez aussi transmettre quelques messages. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h56, le père d'Hakim, le jeune Yanis, vous venez d'écouter évidemment cette affaire complètement sordide et surréaliste. Hein. On en parle ici même dans Les Informés sur Beurre FM et Hakim est avec nous. Mais également, je voudrais saluer Amine Sahar. Bonsoir Amine Sahar. Bonsoir, mais également aussi, vous êtes vous un élu de la ville de la Courneuve, dans le département du 93. Un autre élu, c'est élu du conseil régional, Philippe Nadjibouriaki, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Emporté par l'émotion. Ouais.
J'ai une fille qui a. Puisque si tu veux, quand on a été au rassemblement, Amine m'a appelé. Au début, moi, quand j'entends Yanis, voiture, je pense tout de suite à Rodéo. Ils nous ont formaté. Hein. Je suis biberonné à CNews, donc je me dis encore un jeune qui a fait un délit de fuite. Il me dit, attends, je vais t'expliquer. Donc, quand même, expliquer, je dis, c'est pas possible. C'est trop gros, là, ce que tu me dis. C'est tellement énorme que j'y crois pas. Donc, je commence à regarder, etc. Quand on vient le soutenir, le dimanche à la Place de la République, on me met une photo grandeur nature.
Le week-end dernier.
Grandeur nature. Et là, voilà, la taille de ma fille, enfin, c'est. Je suis encore bouleversé.
Et Jean-Pierre Colombiès, qui est avec nous aussi également sur le plateau. Hakim, aujourd'hui, quand on voit les différentes séquences, chapitre par chapitre, aujourd'hui, votre dossier en est où précisément ? On parlait de juge d'instruction. Vous vous êtes porté partie civile.
Oui.
Aujourd'hui, le dossier, est-ce qu'il avance ?
Eh bien, tout est fait pour pas que ça le soit, en tout cas. Donc, il a été bâclé et bouclé, je répète mes mots, en un mois et demi. Il y a eu les vacances. Rentrée des vacances, on nous a dit le 28. Arrivé le 28, mes avocats arrivent, ils disent qu'ils nous font un complément d'enquête, notamment sur la partie, donc, le médecin légiste lui-même la réclame. Donc, ils ont été, si vous voulez, dans la continuité du médecin légiste. Mais il y a tellement d'autres choses à demander, notamment mon dossier médical. que je réclame depuis le mois d'avril, puisqu'ils ont estimé qu'au premier choc, eh bien, il aurait succombé au premier choc. Alors que quand je suis aux urgences, il n'y a rien du tout dans le cerveau. Donc ils ont dit qu'il serait, le choc avait de, le cerveau avait de telles lésions qu'il n'aurait pas pu survivre, malgré le fait qu'elle ait écrasé. Mmh. Eh bien, je sais pertinemment que le cerveau n'a rien du tout. Je réclame mon dossier médical. On ne me le donne que le 21 septembre, 4 jours avant la date d'audience, quand on enlève le week-end. Ça aussi, de l'inédit. Je ne peux même pas débattre et remettre en cause. Je ne sais pas qui a décidé qu'il aurait été tué de toute façon au premier choc.
Vous dites que l'enquête est bâclée.
Ah, mais un peu plus même. Alors, quand je parle de système mafieux, je mesure mes mots. Pourquoi ? Parce que j'ai tout le temps demandé, j'ai tout le temps imploré pour qu'il y ait une justice, pas de vengeance. J'ai tout le temps dit que je faisais confiance à la justice. Je crois que j'en suis à ma 5e marche. Et puis, j'ai tout le temps, on est resté dans les cordes, on a tout le temps respecté la loi, mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Je peux le dire aujourd'hui. J'y croyais pas avant, mais aujourd'hui, selon qui vous êtes, vous n'aurez pas la justice. Quoi que vous fassiez, on va vous faire le non-recevoir. Alors, pour le coup, mon fils, 8 ans, innocent, tué devant sa mère, va falloir qu'il la rende à la justice. Parce que maintenant, ça va mobiliser tellement de personnes, y compris à l'international. Je ne sais pas si vous suivez, mais il y a plusieurs chaînes à l'extérieur qui suivent à la loupe et des ambassadeurs, et je ne veux pas en dire plus, y compris des... Voilà où on en est aujourd'hui. Pourquoi ? Par exemple, 3 semaines après l'audience, c'est parce qu'ils ont obligé mes avocats à plaider sur le fond. C'est-à-dire, malgré qu'il manquait ces documents, ils leur ont dit non, il faut plaider sur le fond. Voilà ce que j'appelle système mafieux. Mmh. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Des avocats, des avoués qui sont dans le droit réclament un droit. L'article 463 et 464 du Code pénal du complément d'information a été tout simplement refusé. Ma femme qui ne s'était jamais exprimée,
oui,
qui a vu son fils mourir, et qui
c'est terrible pour
et
une
s'en
mère.
Remettra ouais. jamais, m'a fait une lettre écrite. En suppliant encore une fois, comme si c'était normal que nous, les victimes, soyons obligés de supplier, que ce jugement ne soit pas rendu aujourd'hui parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait rien de fait à notre faveur, mais qu'au contraire, toute cette démolition, les panneaux, l'excès de vitesse, tout est remis en cause juste. Et puis cette meurtrière, Marie-Christine, qui est chez elle. Et puis elle n'a pas un fils, elle a 2 fils gendarmes qui sont venus à son secours. Donc il y a un vrai problème, on ne veut pas le vivre. On ne veut pas, moi, je ne veux pas que mon fils, ce soit juste un bout de viande qui a été écrasé, ou une cible. Pour le coup, ils disent que c'est un oiseau. Donc là-dessus, il va falloir qu'ils comptent avec nous. Et ensuite, eh bien, quand on parle de justice, j'y crois encore, malgré tout. Et s'il y a des gens qui entendent, qui sont remontés, parce qu'on ne peut pas rester insensible, je leur demande de tout mon cœur de toujours rester dans cette ligne-là. Pour le coup, ce n'est pas nous,
d'ailleurs,
les mafieux.
Alors, c'est justement, Jean-Pierre Colombiesque, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil aujourd'hui ?
Je crois que si c'est pas moi qui en ai l'idée, ce serait bien que ce soit le juge, mais que si, effectivement, enfin, il y a une partie civile, donc c'est clair, donc le juge peut décider, il en a toute autorité, de saisir tel service ou tel service. Il est bien évident que sur une zone gendarmerie avec 2 fils gendarmes, la solution de bonne intelligence serait d'ouvrir l'instruction et de la confier à des services de police. Tout simplement.
Voilà, c'est ce
et là, vous délocalisez, vous délocalisez, vous confiez ça à des services totalement indépendants qui n'ont rien à voir avec ça. Ce qu'on fait déjà à l'inverse, c'est-à-dire que quand des services de police sont parfois mis en cause, on saisit les gendarmes. C'est arrivé plein de fois, et il y a des affaires criminelles célèbres où des enquêtes diligentées au départ par des gendarmes ont été reprises par des SRPJ ou des services de police locaux. Donc je pense que la raison, la bonne intelligence, c'est de faire ça. C'est d'ouvrir une instruction avec le juge d'instruction, s'il est consciencieux ou si du moins il a envie que le juge. Justement,
et peut en parler avec le juge, Hakim ?
Bien sûr. Oui. Et s'il a envie que les réponses soient apportées à la famille, et je pense qu'il en a pleinement le droit, c'est amplement légitime, saisisse à notre service, bien évidemment.
Ça a été fait. Ça a été fait. On a demandé à ce que ce soit repris par un juge d'instruction et que ce soit instruit. Pour le coup, il faut le complément d'enquête. Ils ne le feront pas. Donc, ils ont fait.
C'est la police,
je vous dis ce qui s'est passé le jour du tribunal.
Ah oui, mais
ils ont obligé les avocats, je vous explique ce qu'on a vécu. Le 28. À l'audience, ils ont fait un non-recevoir. Le procureur s'est complètement opposé. Le juge a demandé à ce qu'on plaide le fond, alors qu'il aurait fallu débattre sur les raisons du complément d'enquête. Et donc, je vous amène.
Il y a une suspension du jugement, je crois.
Alors, je vous amène à la fin. Il n'y a pas de suspension. Ce serait trop beau.
C'est un report,
si vous me permettez, en 2 secondes, je vous explique.
Bien sûr.
Donc, voilà. On a quand même fait pas mal de bruit là-dessus. Et puis, ça. Peut-être qu'il y a eu un retour. J'ai même eu l'Élysée qui m'a appelé. Donc voilà à quel point. Donc, il y a eu un retour. Et puis, le 9, bien entendu, ce brave procureur ne demande pas d'amende ni de mise en détention, alors qu'elle enfreint pas mal de règles de sécurité. Mmh. Il demande 18 mois de retrait de permis aménageable et 0 jour de prison, c'est-à-dire 5 ans de sursis. Pour aller au plus simple...
5 ans de prison avec sursis, oui.
Mais le mot prison, on peut l'enlever, parce que honnêtement, 5 ans de sursis, ça veut dire, oui, c'est vrai que ça se qualifie comme ça, mais dans la réalité, elle rentre chez elle. Elle a tout simplement tué un enfant. Donc, pour moins que ça, ce serait de la prison ferme. Mais pour le coup, c'est une deuxième chance. En fait, on lui dit, vous savez, comme c'est ce que j'ai dit souvent, comme quand vous punissez un petit garçon, la prochaine fois, on sévit. Mais là, c'est pas possible. On peut pas lui donner la chance de recommencer.
Vous le dites vous-même, vous dites c'est 50 sur 6, c'est comme si on exécutait une seconde fois.
Et ça, c'est
une deuxième fois.
Alors, j'ai cru honnêtement, je venais d'avoir un coup de fil le 7, je trahirai pas ce qui s'est dit avec l'Élysée. Donc, j'ai eu un coup de fil et je leur ai dit voilà ce qui se passe. On ne peut pas intervenir, la justice et nous, c'est deux mondes. Donc, après, on verra. J'ai dit non, c'est avant qu'il faut voir. Parce que le 9, ils vont encore suicider mon fils, mais là, je serai présent et je n'ai pas envie de vivre ça. Et pour le coup, eh ben, c'est une cocotte minute aussi, cette histoire. Il faut le savoir. Donc, à un moment donné, il faut voir si on va du côté de la justice ou si on accepte l'injustice. Pour ma part, je ne voudrais pas que ça explose. Mais pour le coup, c'est tellement injuste, un petit enfant qui perd de sa vie. Alors pour finir,
allez-y, je vous en prie.
Donc, ce qui se passe, c'est que le 9, au moment du délibéré, je m'attendais à ce que ce soit confirmé ou à minima. C'est rarement au-dessus. Donc, on s'est dit, bon, on y va pour le fun. Les avocats ne sont même pas présentés. Et puis, j'arrive. Ce fameux document que mes avocats ont demandé, donc cette fameuse expertise qui ressort d'un tiroir qui n'était pas dans le dossier, dit écoutez, il y a quelque chose de nouveau qui vient d'apparaître. Voilà, on a retrouvé le document d'expertise qui date du 20 mai et qui n'était pas dans le dossier à la date du 28. On nous a obligé à aller dans le fond du dossier avec des documents d'expertise qui n'y étaient pas. Donc là-dessus, il y a une incompétence ou une volonté de cacher le dossier ou une incompétence. Mais dans les deux cas, c'est gravissime.
C'est quel document ?
C'est le document du médecin légiste qui est demandé dans le... Oui,
le rapport d'autopsie.
Oui, et qui est retrouvé. Alors, on ne sait pas d'où il est sorti, mais on nous a dit, écoutez...
Jean-Pierre Colombier.
Il est sorti du bureau du procureur, tout simplement.
Et je vais vous dire la suite. On ne nous dit pas, oui, vu qu'on a retrouvé ce document, eh bien, on repart à zéro et on débat. Non, non. Ils m'ont dit, bah écoutez, le 14, on fera le délibéré. Mais tenez, ce papier, on l'a trouvé, ne le réclamez plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Dans quel monde on vit ? Donc là, je vous ai parlé technique. Je vous ai parlé aussi de tout ce qui a été enlevé, de cette personne qui est relâchée. Mais le pire, c'est quand on entend Marie-Christine, elle ne veut plus parler du petit enfant qu'elle a tamponné. Vous savez, au début, quand elle téléphone à la gendarmerie, elle parle d'un oiseau. Et d'une boule, et d'une boule qui serait venue du ciel en direction du pare-brise. Et le pire, c'est qu'on accepte cette théorie. Elle est totalement plausible. Alors, c'est tellement plus simple de remplacer la mort d'un petit de 8 ans par un oiseau. C'est sûr que là, c'est plus facile. Et vous savez, quand on entend ensuite le réquisitoire du procureur, parce qu'il me le dit face à face, les yeux dans les yeux, est-ce que je suis là aussi pour lui rappeler qu'il n'a pas retenu mon assistance ? On a quand même mis quelquefois les estrades devant le tribunal avec la bénédiction de ceux qui ont accepté, donc suite aux demandes qui ont été faites, pour prendre l'enceinte et expliquer que la loi, c'est pas ça. Nul n'est censé ignorer la loi. Pour ma part, je sais que la non-assistance, c'est 7 ans de prison. L'homicide involontaire, ça peut aller jusqu'à 10 ans s'il y a des circonstances aggravantes. Mais là, c'est particulièrement grave et elle est rentrée chez elle.
Oui. Aminsa,
ben mon cher Adil,
je sais que vous soutenez le Hakim.
Pas depuis le début, parce que je n'avais pas connaissance de cette affaire, mais dès que j'en ai pris connaissance, moi je me suis tout de suite mobilisé. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé ici
à l'antenne, ouais. À plusieurs reprises.
Vous l'avez vu, Hakim est assez clair, il y a une forme d'aberration qui entoure cette affaire. D'abord les circonstances aggravantes qui sont retenues, puis qui ne sont plus retenues. Le délit de fuite qui est ignoré maintenant. Une reconstitution en catimini. Tout un tas d'incohérences, des documents qui disparaissent. Enfin, tout est fait dans cette affaire pour essayer de faciliter finalement la vie de cette dame. Et donc, comment ne pas imaginer que tout le monde est de collusion là-dedans? Et moi, j'assume mes propos. Et par ailleurs, c'est humain que ses fils lui viennent en aide par les moyens qui sont les leurs. Mais ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Ce n'est pas acceptable dans une démocratie comme celle que l'on connaît.
Lui venir en aide ou la soutenir dans le cas.
Ou la soutenir, peu importe.
Mais
ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, il y a, de mon point de vue, une situation qui n'est pas acceptable au regard des règles de loi et de l'état de droit. Et donc, ce qui est réclamé le 9 novembre, Hakim l'a dit, il y a eu un report donc de la décision du délibéré reporté au 14 décembre. Donc, on va continuer de se mobiliser parce que si on a obtenu ce report et avec ce document qui réapparaît par magie, c'est notamment parce qu'il y a eu une mobilisation forte à la fois sur
nationale,
les réseaux sociaux,
mobilisation nationale,
une forte mobilisation des élus. Dans la rue, des élus qui se sont engagés,
des radios indépendantes
comme ici, donc des médias indépendants qui n'ont pas voulu laisser cette affaire sous silence. Et donc c'est tout ça qui a joué finalement pour que cette décision soit renvoyée au 14 décembre. Donc là, c'est un nouveau combat qui s'ouvre entre aujourd'hui et le 14 décembre pour mobiliser, pour alerter, pour faire que cette situation qui touche Hakim ne soit pas, d'abord, qu'il puisse obtenir justice pour lui, pour sa famille et surtout pour Yanis, et aussi pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise pas à l'avenir. Donc moi, j'appelle tous les auditeurs à se mobiliser, notamment le 3 décembre, parce qu'il y a un événement. Alors on est en train de peaufiner les détails. Alors ce sera soit un rassemblement, soit une marche, en fonction des autorisations qui seront obtenues. Mais le 3 décembre à 14h, on vous redonnera les éléments plus près. 14h30, on vous redonnera les éléments, mais il faut se mobiliser parce que ça touche aujourd'hui Yanis et sa famille, mais demain ça peut vous toucher également.
Vous avez eu le compte rendu
Jean-Pierre Colombiès, et puis je pense que si les auditeurs veulent intervenir, je sais qu'on va être noyé. 01 53 48 3000 pour interpeller donc le papa de Yanis.
Juste pour aller en complément.
Même si je sais que le temps est court.
Ce qu'a dit
Hakim.
Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il manquait ces documents. Et puis pour remettre les choses dans leur contexte, parce que je ne veux pas leur donner le bâton pour qu'ils me frappent, donc je vais éviter de me tirer une balle au pied pour rester dans les euphémismes. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce document est réapparu par miracle, je ne sais pas, du chapeau du magicien, le 9, qui fait qu'on a un coup de souffle le 14. Une chose qui revient. Une autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que ça a été il n'y a pas l'enquête qui va dans le sens du délit de fuite. Donc on a bien compris. Et puis le procureur, le jour de l'audience, c'est qu'il dit « J'ai visionné les vidéos. Elle s'est cachée sur le fait qu'elle n'a pas pu se garer avant du fait qu'elle était gênée par des véhicules. Elle dit « J'ai vu aucune voiture, le procureur. » Et il me dit « Ben écoutez, du coup, on va remettre le délit de fuite. On retient le délit de fuite dans la mesure où ce qu'elle dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. » Alors à ce moment-là, je crois que le procureur, puisqu'il me dit que c'est 10 ans, quand il y a deux circonstances aggravantes, il rajoute une circonstance qui, pour le coup, est aggravante. Et puis, en me disant que, voilà, ben, c'est 10 ans de prison quand c'est homicide involontaire avec au moins deux circonstances aggravantes. Et dans les deux minutes qui suivent, il demande 5 ans de sursis, pas de mise en prison. Voilà. Alors, ça, il vous le dit en vous regardant dans les yeux, du style, bon, on sait très bien qu'elle peut prendre 10 ans, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas les demander. Donc, voilà avec quoi on est reparti. De là-bas. Donc, un papier qui remonte
après,
le 9.
Le proc qui peut demander.
Très Philippe Nadjiboyaki.
Et les juges ne pas suivre l'avis du proc ou le général, etc.
Quand vous suivez l'évolution, est-ce que vous y croyez?
Mais non, mais honnêtement. Si je suis là et si je suis venu, c'est que vraiment, j'ai vu. Alors, en tant que politique, je ne dois pas commenter une décision de justice, théoriquement.
Donc, pour le moment, on n'en est pas là.
Non, mais. Même la procédure. Normalement, il y a une séparation entre le pouvoir et le judiciaire en France et on doit se la respecter. Mais, n'empêche qu'on est quand même des êtres humains. Et si je suis venu, c'est parce que j'ai vu un tas d'anomalies. Et la première qui est la plus dingue parmi toutes celles qui sont citées, enfin, c'est une aberration. C'est, il n'y a pas eu de contrôle ni d'alcoolémie ni de stupéfiants. Donc là, il y a une faute grave.
Alors, dès le départ, il y en a peut-être eu sur place. Ça, là-dessus, je ne sais pas.
Mais dans le rapport, on ne le voit pas, ça. À aucun moment, on ne le voit dans le rapport. C'est ça que je ne comprends pas. Vous dites, vous ne le savez pas.
Trois tests.
Ça, je ne sais pas.
Vous dites quoi, Amine ?
En fait, pour que le test d'alcoolémie soit fiable, il faut qu'il y ait une garde à vue pour que ce soit, et qu'il y ait trois prélèvements. Parce que sinon, quand bien même il y en aurait eu un ou. C'est caduque.
J'apprends encore quelque chose aujourd'hui. Alors, encore une.
C'est
la raison pour laquelle je vous disais que la garde à vue était essentielle, c'est que quand la personne est en garde à vue, elle est sous main de justice, comme on dit. Mais ces expertises ne peuvent se faire qu'avec l'accord et à la demande du procureur.
Ben voilà.
On va marquer là une pause. On revient parler d'une cagnotte, parce que vous faites appel aussi à la générosité de celles et ceux qui nous écoutent, parce que vous avez besoin, dans cette affaire, évidemment,
de plus en plus,
effectivement, parce que c'est des frais d'avocat, c'est aussi des frais...
On a essayé de le faire par nous-mêmes,
c'est énormément d'argent, on le sait bien. 0153483000, évidemment, on compte sur vous, vous nous appelez tout de suite là maintenant, cette fameuse cagnotte, mais surtout, nous attendons vos messages de solidarité, de générosité, je vais y arriver, Hakim est avec nous, et on parle de cette cagnotte, et puis sur cette pétition que vous avez lancée sur Change.org. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h20, avec le père du jeune Yanis fauché par un véhicule. Vous l'aurez compris, effectivement, il est avec nous en direct dans les studios, dans les informés. Amine Saha, qui est un élu du 93, Jean-Pierre Colombiès, et puis enfin, Philippe Nadji Bouriaki. Messieurs, Hakim, je m'adresse à vous, puisque c'est évidemment le moment aussi où vous faites appel à la solidarité de toutes et tous, à la générosité. Vous décidez de lancer, en tous les cas, malgré vous, une cagnotte. Pour quelle raison ?
Eh bien, ça m'a été proposé par différents influenceurs. Pour le coup, j'ai quand même eu de la chance. Dans mon malheur, c'est que ça a été repris par des personnes qui, eux-mêmes, sont suivies par plusieurs millions de personnes. Ça m'a amené aussi sur le plateau de TPMP, et sur beaucoup aussi, Guzli, Orange, Origine, ça a généré plein de millions de vues, et beaucoup de personnes me disaient comment on peut vous aider. Donc je ne sais pas trop. Et c'est quelqu'un qui a dit, écoute, à un moment donné, tu vas t'étouffer, tu n'y arriveras plus. On a essayé par le moyen de faire des t-shirts pour les marches, d'assumer. On s'est quand même pas mal endetté, mais quand on est dans ces cas-là, vous savez, on n'est pas trop regardant. On voudrait que tout se passe bien, vite. Mais en fait, non, ça se passe très mal. Et plus on avance, et plus on nous met des cailloux dans les chaussures. On ne veut pas qu'on puisse avancer. Donc, aujourd'hui, je suis amené à venir à Paris. J'y étais il y a moins de 10 jours. J'étais encore ici. Je dois sûrement partir à Alger faire une télévision. Toujours pour essayer de ramener à la raison ceux qui ne veulent pas qu'on entende parler de justice pour Yanis. C'est incompréhensible. On est bloqué. Les grandes télévisions comme BFM, pas BFM Marseille, puisque je suis passé sur BFM Marseille, Provence, sur FR3, mais ici, dans le Parisien, qui a un impact au niveau
national,
ne veulent pas entendre parler de Yanis, que ce soit CNews ou BFM. Ce qui n'est pas normal. C'est quand même assez grave. Refuser d'en parler, voilà. Donc, les grandes chaînes à l'international, eux, me proposent d'aller sur place. Il faut que je puisse en parler. Il faut qu'on puisse l'entendre. Donc, il y a voilà, je vous l'ai dit en exclu, il y a des grandes chaînes à l'international qui veulent me donner un temps d'audition pour que je puisse en parler. Pas en France, c'est un coût aussi qui est énorme. Aujourd'hui, voilà, il faut aussi gérer tout ce qui est...
Cette cagnotte, Hakim, on la trouve où précisément ?
Eh bien, c'est PayPal. On peut la trouver sur mon mur qui est Hakim sans H. Donc pour le coup, Hakim Perpignan, puisque il y a qui me disent qu'ils ont du mal à trouver.
Sur
on
peut la trouver... Sociaux.
Sur Facebook. On peut le trouver aussi sur TikTok, Hakim MMTS, c'est-à-dire AKI3MTS. En dessous, c'est marqué aussi pour la cagnotte.
Et PayPal, c'est comment l'intitulé
PayPal Metlas. Oui, on trouve Metlas. Donc, il y a l'intitulé aussi. Et puis voilà, donc vraiment aujourd'hui, on est de plus en plus étouffé. Et puis, ça fait le jeu de ceux qui ne veulent pas qu'on ait justice. Parce qu'à un moment donné, si on c'est le nerf de la guerre. Si on ne peut plus avancer, on est en situation d'échec.
Vous ne lâcherez rien.
Non, c'est pas le but.
Non, par ailleurs,
faisons un tour de table. Alors, faisons un tour de table, messieurs. Comment vous voyez les choses maintenant, avec un peu plus de recul? Hakim vient de nous dire en direct qu'il lance cette cagnotte parce qu'il fait appel à la générosité de toutes et tous parce qu'il en a besoin dans ce dossier qui est très important et il faut qu'il aille au bout du bout. Vous, les élus, comme Philippe Nadji Bouriaki, Amine Saha, qu'est-ce que vous dites justement à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui?
Bah, d'abord, il faut savoir qu'Hakim, depuis cet événement, il a un peu mis sa vie entre parenthèses, puisque du soir au matin et du matin au soir, c'est cette cause-là aujourd'hui qui l'anime et qui l'occupe. Et donc, vous imaginez bien que ça coûte, ça a un coût de se déplacer jusqu'à Paris, de séjourner sur place, les frais d'avocat, les frais de conseil, etc. Et donc, tout ça... c'est l'objectif, c'est de le financer via cette cagnotte. Et je rappelle aussi qu'il y a une pétition qui est
sur change.org
et dont vous trouverez le lien sur les réseaux sociaux d'Hakim également, que ce soit sur Facebook, Instagram ou TikTok. Et donc je vous invite à aller la signer massivement. Et ce que je vais redire et puis ensuite je céderai la parole, c'est que le 3 décembre, il y aura un événement à 14h30. On vous donnera le détail. Moi, j'y reviendrai sur ce plateau si tu m'en donnes l'occasion. Mais oui. Voilà, il faut se mobiliser parce que c'est comme ça qu'on a obtenu cette première victoire le 9 novembre. Et si on veut obtenir la victoire le 14 décembre, c'est qu'il faut se mobiliser.
Chers amis auditeurs, vraiment là, je vous le dis clairement, il faut aller sur l'Instagram. Donc c'est Hakim MMTS. Allez le suivre. Et il y a notamment... Et puis sur Facebook aussi notamment, il y a le PayPal. Donc vous avez tous les éléments. Allez-y, Hakim MMTS, c'est ça. Hein,
ouais, ça voilà. C'est TikTok.
Ça c'est TikTok, pardon. TikTok. Voilà. Et TikTok. Et sur Facebook, Hakim MMTS. Vous avez le PayPal et sur Facebook c'est Hakim Perpignan. Vous vouliez aussi remercier, il me semble-t-il, une association.
Voilà, il y a plusieurs initiatives et puis il y a Marseille aussi.
Vous voulez le dire à l'antenne.
Marseille aussi se mobilise pour le 3 décembre. J'ai cru entendre, mais je crois que c'est pratiquement sûr. Toulouse, beaucoup de personnes aussi qui me demandent comment est-ce qu'ils pourraient m'aider. Ben, je demande qu'ils se mobilisent aussi en soutien. Et puis, sans besoin de faire de marche, mais juste montrer leur solidarité. Si le message pouvait passer à Lyon aussi, à Perpignan, il y aura une marche pour qu'enfin ils entendent des raisons, je me répète. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y avait un groupe sur Toulouse et que je remercie pour leur initiative, c'est le groupe Miras. Parce que, voilà, j'ai du mal
à... Et on est très écouté à Toulouse, donc, ça tombe bien, donc...
C'est des Miras Beat. Miras Beat, donc c'est un grand groupe.
Empire Street Music.
Et Empire Street Music, donc ils sont une trentaine apparemment d'artistes qui auraient sorti un son, et même plusieurs sons, donc à but non lucratif, justement pour nous aider aussi. Donc
en
l'honneur de Yanis. Et puis je les remercie vraiment. Ils sont une alors il y a des artistes de Nice, de Toulouse, du Maroc et puis d'autres villes, de Paris aussi. Donc une association comme ça d'artistes
qui spontanément... Mobilisez-vous, voilà. C'est très très important évidemment et Hakim a besoin de vous. Philippe Nadji Bouriaki, comment vous comptez l'accompagner évidemment? Alors, Hakim,
et à chaque fois que je serai sollicité alors il y a toujours des esprits malsains, surtout ceux qui veulent étouffer et on n'a pas abordé un truc honnêtement. S'il s'appelait Romain, je pense que la terre entière aurait bougé. Il s'appelle Yanis. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, ceux-là? J'exagère, je veux que ceux qui m'écoutent ne pensent pas que c'est ce que je dis, mais c'est ce qui est ressenti de l'autre côté. Et j'ai entendu des gens, les politiciens, vous avez voulu faire de la récupération. Mais quand j'ai pris le micro pour Justine, personne ne m'a dit que je faisais la récupération. Puis à un moment donné, on m'a fait sentir que, parce que ça touchait ma communauté. Je me dis, mais moi, je suis judéo-musulman. Toute la communauté me touche. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est la dignité d'un homme. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu avoir la même dignité que lui. Je n'ai jamais entendu de propos de sa part de colère, de haine ou de rage ou de vengeance, ce qui aurait été humain lorsque tu es un père de famille, lorsque tu es une mère. Et donc la seule façon de l'aider, c'est à chaque fois qu'on aura le micro, on va en parler. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et c'est à chaque fois qu'il y a des écharpes, les médias se déplacent. C'est une réalité. Et puis, dire à tout le monde, allez sur Facebook, Hakim, il y a le lien PayPal, c'est Hakim Metlas. Chaque don permet à la famille de pouvoir supporter les frais, parce que les frais d'avocat, ça coûte une blinde. Et ceux qui sont en face, ils ont le temps, ils ont les moyens humains, ils ont l'argent de la collectivité et de nos impôts pour pouvoir étouffer cette affaire. Et c'est pas possible, on peut pas.
Jean-Pierre Colombiès.
Bien évidemment, toute mobilisation est à prendre. Hein. Moi, j'éviterai de tomber dans le piège, je sais pas si je peux appeler ça le piège, mais les travers rhétoriques à géométrie variable. Hein. Moi, j'ai une affaire, j'ai été impliqué dans une affaire judiciaire qui a connu le même dénouement, qui a strictement rien à voir avec le cas terrible qui vient de nous être évoqué. Il s'agissait du meurtre d'une femme qui n'était pas maghrébine. Et pourtant, le dossier a été classé sans suite, avec des raisons pas du tout objectives. Donc, la justice à géométrie variable, elle s'exonère parfois de la couleur ou de l'origine des personnes.
Merci, monsieur Hakim. Évidemment, vous savez que vous avez tout le soutien de la radio BFM et que, évidemment, vous reviendrez en parler ici et qu'on ouvrira les micros et qu'on, évidemment, bien sûr, on vous accompagne.
Merci.
Merci à vous. Merci à Amine Sahar. Merci à Hakim. Force et puis ne lâchez rien, comme on dit ici, effectivement. On doit rendre l'antenne. Eh bien, allons-y. C'est parti. On rend l'antenne. 19h30 dans quelques secondes. Non. Et puis surtout, il me dit, ouais, qu'est-ce que vous voulez dire, Philippe Nadji?
Mais je voudrais. J'ai pas pu lui dire la dernière fois. Bien évidemment, je vous présente mes condoléances les plus sincères et ça ne peut pas atténuer votre peine. Mais une chose est claire, c'est que vous avez des gens autour de vous qui sont juste extraordinaires et qui ne sont pas en connexion familiale avec.
Eh bien, est-ce que je peux rajouter un dernier mot ?
En quelques secondes, Hakim, s'il vous plaît.
Alors là, je tiens à remercier, mais là, du plus profond de mon cœur, puisque, encore une fois, quand on regarde tous les commentaires que j'ai, et ça se chiffre à millions, il n'y a pas de nom à consonance maghrébine ou portugaise ou espagnole ou quel que soit. Il y a juste des bonnes personnes, des bons citoyens qui se sont indignés de ce qui se passe depuis le début. Et c'est juste une petite poignée de personnes qui vont contre la justice. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que je remercie de tout mon cœur tous ceux qui jusqu'à maintenant m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. Merci, c'est grâce à vous que je trouve la force.
Merci Hakim, merci à vous d'être venu ici en parler. Je sais que c'est pas simple, évidemment, pour vous. Merci infiniment et vous avez tout notre soutien. Merci à vous, donc on se retrouve demain avec autant de plaisir. Bilal Nedmal, 20-21, Vanessa, 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien, évidemment.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.